Les sourires seront parfois un peu crispés au gré des rencontres en coulisses. Le nouveau Front Populaire tient ce soir son premier meeting commun. François Ruffin, Olivier Faure ou encore Marine Tondelier et Fabien Roussel partagent une même scène ce soir à Montreuil. Bonsoir Anthony Le Bos, on attend évidemment cette première photo de famille de la gauche alors que la crise interne chez les Insoumis a ébranlé l'Alliance ce week-end.
Et ce sera une photo de famille un peu plus élargie, Yves, puisque effectivement, durant ce meeting de près de 2 heures ici à Montreuil en plein air, il y aura plus d'une vingtaine de prises de parole, des syndicalistes, des organisations de jeunesse, des économistes, des intellectuels, mais aussi des responsables politiques, notamment Clémentine Autain. Bonjour, madame la députée sortante, désormais. Merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Alors, on a connu effectivement ce week-end un week-end de turbulence au nouveau Front Populaire avec la direction de la France Insoumise qui a décidé de ne pas réinvestir un certain nombre de députés sortants, jugés trop frondeurs, trop critiques avec l'organisation de la France Insoumise. C'est quoi ce meeting? L'objectif, c'est une séance de rattrapage. Vous allez régler les querelles après?
C'est un meeting très important. Nous sommes à moins de 15 jours maintenant de l'échéance. Et il nous faut convaincre que l'extrême droite serait un drame pour notre pays et que l'espoir peut s'ouvrir d'une vie meilleure avec un gouvernement du nouveau Front Populaire. Et donc ce soir, c'est un meeting qui est là sur cette place de Montreuil, ville populaire de Seine-Saint-Denis, avec, comme vous l'avez dit, à la fois des personnalités de la société civique, comme on dit, et tout le cadre du rassemblement politique inédit que nous avons réussi à former. Donc moi, c'est pour l'instant mon objectif, c'est de dire que nous allons aller arracher la victoire avec les dents, parce que le moment est trop grave et qu'il s'agit de choisir entre deux choix de société. Soit nous allons vers un projet qui va laminer les fondements même de la République, qui va abîmer la liberté, l'égalité et la fraternité, qui va être fondé sur le rejet de l'autre, ou alors nous allons vers une logique de partage, de solidarité. C'est le projet que nous proposons et je pense vraiment que cet enjeu d'égalité et de dignité peut l'emporter parce qu'il y a une mobilisation qui est en train de s'enclencher dans le pays et je crois vraiment qu'on peut changer la donne.
Madame Autain, nous sommes à Montreuil, la circonscription de Montreuil. Il y a deux candidats de gauche qui ont déposé leur candidature. Sabrina Ali Ben Ali qui a été investie par la France Insoumise et donc par le nouveau Front Populaire. Et puis Alexis Corbière qui n'a pas été réinvesti par la France Insoumise mais qui se réclame du Front Populaire. Vers qui ira votre vote le 30 juin prochain?
Mon vote ira et j'appelle à voter pour Alexis Corbière qui est le candidat sortant que évidemment j'ai défendu parce que c'est un de mes camarades et que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été investi. Donc j'appelle à voter pour lui et j'appelle à voter pour tous les candidats en France du nouveau Front Populaire parce que c'est parce que nous aurons tous ces votes partout dans toutes les circonscriptions que nous aurons la possibilité d'avoir un gouvernement qui permettra, je sais que ça ne vous intéresse pas mais c'est le cœur de ce qui intéresse les gens qui nous regardent.
Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Ouais, non mais non je vous en prie. C'est juste que souvent on a les questions là en chaîne sur toutes les polémiques qu'on a eues. Toutes les polémiques qu'on a eues. Mais je pense que pour celles et ceux qui nous regardent, ce qui est important, c'est de savoir qu'avec ce bulletin de vote, dès l'été, on peut avoir une augmentation de salaire. On est pour le SMIC à 1 600 €. On est pour l'abrogation de la loi sur les retraites. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler 2 ans de plus. On va arrêter toutes les réformes sur le chômage qui durcissent les conditions de chômage. On va pouvoir faire un choc d'investissement sur la transition écologique. On va pouvoir arrêter Parcoursup, j'y pense, parce que chez moi, on a le sujet et que
vous beaucoup de Français. Vous ne soutiendrez pas l'accord du nouveau Front Populaire sur les investitures qui ont été décidées par la France Insoumise qui fait partie de cette alliance.
Moi, ce dont je vous parle, c'est ce que fera le Front Populaire une fois au pouvoir dans 3 semaines. Et ça, c'est ce qui intéresse le plus les Français. Vous m'avez demandé mon point de vue sur cette circonscription. Je vous l'ai donné. Mais je crois vraiment que maintenant, il faut qu'on rentre dans la campagne, qu'on donne à voir notre union. Parce que s'il y a ces divisions, effectivement, qu'on a vues depuis 48 heures, il ne faut pas que ça masque la réalité du fait qu'au bout du bout, toutes les réformes dont je viens de vous parler et bien d'autres, elles seront votées par tous les députés qui sont aujourd'hui candidats partout en France pour ce nouveau Front Populaire.
Et les milieux financiers s'inquiètent, jugent qu'il pourrait y avoir une forme de chaos dans le programme économique du nouveau Front Populaire.
C'est un classique, vous savez. Et d'ailleurs, nous, on n'est pas très intéressés par les agences de notation pour savoir s'ils vont bien nous noter. On est intéressés de savoir si les Français vont voir leurs besoins satisfaits. C'est ça pour nous le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers le chaos, parce que Jordan Bardella l'a dit, il ne veut pas, par exemple, revenir sur la réforme des retraites. Il ne va pas augmenter les salaires. Il ne veut pas taxer les hyper-riches et les grands groupes. Et donc là, on a vraiment un choix de société. Donc je pense que si on veut améliorer son quotidien, celles et ceux qui nous regardent, eh bien, il faut vraiment se dire que là, on est au pied du mur et je constate qu'il y a un sursaut de participation et que c'est là que se trouvent les clés de notre victoire.
Merci beaucoup, Madame Autain. Le meeting à Montreuil qui vient de commencer, deux heures de meeting en plein air à Montreuil, Yves.
Clémentine Autain avec Anthony Lebeau, c'est Vincent Gauthier, donc en direct de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Avec nous, pour commenter cette actualité, Roselyne Bachelot, ancienne ministre notamment de la Culture sous Nicolas Sarkozy.
Bonsoir, Eric Cavie.
Mathieu Souquière, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de 2022, La flambée populiste, paru chez Plon. Charles Sapin, journaliste politique au Point, auteur, lui, des Moissons de la colère, une plongée dans l'Europe nationaliste, paru aux éditions du CERF. Anna Cabana, éditorialiste de BFM TV.
Bonsoir.
Et Laurent Neumann, éditorialiste politique de notre chaîne. Roselyne Bachelot, cette unité à gauche peut-elle tenir au moins durant les deux semaines de la campagne à venir?
Oh, je pense qu'elle va tenir avec quelques scories qu'on a déjà vues, mais les intérêts électoraux sont tellement importants qu'elle va tenir. Alors c'est l'après qui est évidemment angoissant, avec un programme que même les tenants du nouveau Front populaire chiffrent au-delà de 250 milliards et les experts aux environs de 280-290 milliards. Madame Autain parlait de choc. Effectivement, il y aura un choc sur l'économie française. Mais pour l'instant, oui, la chose de arrêter d'être là à agiter leurs petites querelles. Ils vont surmonter ça extrêmement facilement. Les intérêts sont trop grands.
Alors l'autre choc, il n'est peut-être pas de la même ampleur, mais on vient de l'entendre, Laurent Neumann, c'est qu'elle appelle à voter pour un candidat qui n'est pas investi par le Front populaire. On se doit de le remarquer.
Et vous voulez un scoop?
Oui.
Celui auquel elle pense sera aujourd'hui à Montreuil, au milieu de ses amis du nouveau Front populaire. Parler d'Alexis Corbière, oui. J'imagine, oui. Parler de Raquel Garrido, oui. Tous les deux qui n'ont pas été investis par le nouveau Front populaire seront à Montreuil là ce soir. Ils sont chez
c'est
eux.
C'est de la provocation ou c'est le retour du grand forum de l'amour?
Mais pas du tout, ils se sentent chez eux. Et d'ailleurs, Anthony Lebeau nous fera vivre ça. Ça va être passionnant de voir Alexis Corbière, Raquel Garrido devant Mathilde Panot, qui du coup n'était pas prévu mais va venir finalement. Alors ça ne les gênera pas de croiser évidemment François Ruffin, Clémentine Autain, vous avez compris, qui les soutiennent malgré l'absence de label Nouveau Front Populaire, mais en revanche ils vont croiser Mathilde Panot, donc c'est assez cocasse.
Mais pardonnez-moi, ils vont être accueillis comme des amis ou comme des gens de l'extérieur?
Mais à Montreuil, ils sont chez eux, évidemment.
Ils vont être accueillis. La formule à Montreuil, ils sont chez eux, et tout est vrai. Oui. Mais ce soir, ils arrivent dans un contexte particulier qui est quand même un meeting auquel ils ne sont pas, entre guillemets, initialement priés et par ailleurs dont ils ne sont pas candidats.
Tout le monde peut venir à un meeting.
Oui, si vous voulez me faire dire que lorsqu'ils vont croiser Mathilde Panot dans les coulisses, ça risque d'être un peu chaud, voire tendu.
Ils vont
sans
pas
doute,
s'embrasser sur la bouche.
Mais très honnêtement,
sûr,
hein. L'important là, ce soir, pour la gauche, qu'on soit d'accord avec le programme pas, que cette gauche, cette coalition coalise justement des gens qui n'ont rien à voir entre eux, ou en tout cas qui ne partagent pas tout entre eux. Oui. L'essentiel quand même pour tous ces gens-là, ils ont un point commun, c'est d'empêcher le Rassemblement National non seulement de prendre le pouvoir, mais de prendre Matignon, d'avoir une majorité absolue ou relative qui leur permette de diriger le pays.
Corbière ou Garrido gagnent, je vous garantis qu'ils n'auront aucun problème pour les réintégrer dans le groupe parlementaire.
Je ne suis pas sûr qu'ils siègent à la France Insoumise.
C'est aussi clair que ça pour vous?
Évidemment, et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que les dissidents dont on parle, ce n'est pas tellement la question de la dissidence, parce que chaque élection a son lot de dissidence. Oui. Donc, là, le point réel, le point derrière tout ça, c'est la question démocratique posée à la France insoumise. Les conditions précisément de désignation en fait, des différents députés investis.
Désignation, on l'a bien compris, c'est Jean-Luc Mélenchon dans son bureau avec lui-même et un crayon.
Mais donc, ce qui est notoire précisément, c'est que dans cette affaire, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon et de Manuel Bompard, qui essayent péniblement de faire le service après-vente, les composantes du Front populaire sont en réalité derrière Raquel Garrido et Alexis Corbière notamment.
Mais attendez,
j'ai vu des choses équivalentes au RPR en son temps.
C'est vrai, faut pas s'en étonner.
Oui, alors là, des candidats sortant dégagés au profit d'un protégé de tel ou tel, ça, c'est pas nouveau.
Et ce que ça révèle notamment, c'est à mon avis deux choses. D'abord, en fait, un rééquilibrage du rapport de force au sein même de ce Front populaire, qui n'est pas la NUPES, parce que précisément, il y a un recul de LFI. Et deuxième dimension, le fait qu'au sein même de LFI, le pouvoir absolu de Jean-Luc Mélenchon est désormais ouvertement contesté. C'est ça qui change. C'est ça que ça révèle enfin, précisément.
Pardon, mais il est contesté tout en restant le grand chef qui décide in fine. Parce que c'est quand même... La contestation, c'est le fait que Clémentine Autain ou François Ruffin s'en plaignent. Ouais. Mais moi, je regarde juste les résultats. Ils n'ont pas l'investiture. C'est Raquel Garrido ne l'a pas, Daniel Simonet ne l'a pas et Alexis Corbière non plus. Pour des accords avec le grand chef. C'est-à-dire que c'est Jean-Luc Mélenchon, le même Jean-Luc Mélenchon qui vient... nous expliquer qu'en fait, il ne s'impose pas, qu'il est là sans être là.
Fait le gentil, ça c'est charmant.
Il veut avoir l'air gentil, les mezzo voce. Voilà. C'est Mélenchon.
Moi, je veux bien vous parler des cadres.
Ce même Mélenchon, c'est lui qui barre ces trois noms. Donc, on peut...
Vous oubliez juste quelque chose, c'est que là, on ne parle que des cadres. On ne parle que des cadres, des grands cadres dirigeants de toute cette formation de gauche. Mais la vraie question, la plus importante, évidemment que pour des questions électorales, bien compris, ils vont s'allier, la carpe, le lapin, tout ça. La question, c'est est-ce que leurs électeurs vont suivre ? Parce que je suis désolé, mais un bout de papier qui a été signé après 10 heures de débat ne suffiront pas à réconcilier deux électorats de gauche qui sont irréconciliables. Les électeurs de Raphaël Glucksmann, est-ce que tout cela suffit pour oublier les approximations de la France insoumise sur la Russie, la désinvolture de certains cadres par rapport à ce que vivent les Français de confession juive avec la montée de... Avec la mission...
Serge Klarsfeld a annoncé qu'il votait Rassemblement National. Et vous voyez, pas voter pour la France Insoumise.
Et d'ailleurs, on peut même parler de l'autre gauche. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'ils sont prêts à pardonner à François Hollande d'être de nouveau candidat, alors que son quinquennat incarne pour eux la trahison suprême à gauche, avec le CICE, la loi El Khomri, la loi de Macron, et cette proposition, on s'en souvient aussi, de retirer la nationalité.
Pardonnez-moi, alors dans ce cas-là, je vous pose la question, comment M. Glucksmann peut-il accepter de participer à ce que vous êtes en train de nous décrire.
Mais vous l'avez vu, Raphaël Glucksmann ? Moi, on est à deux doigts de lancer un alerte.
Non, il s'en est très bien expliqué sur France Inter.
Oui, et après, on l'a plus revu.
Non, mais parce que vous parlez de calculs électoraux, mais en réalité, pourquoi précisément on a entendu la semaine dernière, contre toute attente, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande parler quasiment d'une seule et même voix ? Pourquoi ? Parce que, comme le disait Laurent Neumann à l'instant, en fait, on est passé. Certains vivaient dans l'inquiétude de voir l'extrême droite arriver au pouvoir dans 3 ans. Nous vivons désormais tous avec la quasi-certitude de les voir accéder au pouvoir dans 3 semaines, dans 2 semaines même désormais. Donc précisément, ce qui change, la dissolution nous fait entrer dans une séquence politique tout à fait nouvelle. Et Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, qui se combattaient férocement à gauche depuis plus de 10 ans, désormais en fait, disent la même chose et se retrouvent. Lisez effectivement l'interview que Lionel Jospin a donnée au Monde hier. Même Lionel Jospin, qui a plutôt pas si mal géré la France entre 1997 et 2002, avalise en fait le programme du Front Populaire, parce que précisément, l'enjeu supérieur, c'est d'empêcher l'extrême droite de revenir au pouvoir pour la première fois depuis 1945.
S'ils ne sont pas justement les idiots utiles du Rassemblement National, parce que j'écoutais les propos qui viennent de nous être retransmis, effectivement, ils font le jeu du Rassemblement National, les manifestations font le jeu du Rassemblement National, les exactions, enfin les dégâts qui ont été commis lors de la manifestation, même si elle s'est déroulée pas trop mal, mais enfin...
On n'était pas à feu et à sang. Hein.
C'était pas à feu et à sang, mais chaque vitrine brisée est un argument pour le Rassemblement National.
Vous avez raison.
Et d'ailleurs, moi je remarque que toutes ces manœuvres sont totalement inopérantes sur les intentions de vote. Oui. Le Rassemblement National ne fait que de monter. C'est l'échec de la stratégie anti-RN du nouveau Front de Gauche, parce que c'est pour ça que le nouveau Front de Gauche a été lancé. C'est vraiment le mantra du nouveau Front de Gauche. On fait barrage au Rassemblement National. Je ne vais pas reprendre les phrases que disait Zazie dans le métro parce qu'elles sont un peu vulgaires, mais ça ne marche pas.
Et c'est intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi. Quand on regarde, c'est tout simplement parce que pour toute une partie des Français, la menace, la peur... est suscité par un autre camp. On a publié dans Le Point la semaine dernière un sondage très intéressant de l'IFOP. 92% des Français de confession juive estiment que la France insoumise est antisémite ou nourrit l'antisémitisme. Ils pensent pareil à 60% pour Europe Écologie Les Verts. Ils ne sont plus que 49% à le penser pour le Rassemblement National. C'est un inversement total, si vous voulez. Le risque vient d'un autre camp.
Ces arguments sont parfaitement justes, implacables. J'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Roselyne Bachelot. Il y a juste un souci. C'est que si, au nom des valeurs morales, ils n'avaient pas fait cause commune ensemble, alors c'était l'assurance de perdre. Là, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont perdre aussi, mais en tout cas, s'ils allaient à ces élections législatives séparées, c'était perdu, quoi qu'il arrive, ça arrangeait beaucoup un certain nombre de gens.
C'est un cartel électoral.
Exactement. Ça aurait arrangé beaucoup de gens à droite ou à la droite extrême. Ça, je n'en ai aucun doute. Mais s'ils n'avaient pas fait alliance commune, malgré tout leur désaccord, malgré tout ce que dit Charles, et c'est la vérité, tout ce que vous venez de dire est vrai. Mais malgré ça, ils décident d'y aller ensemble, sinon c'est perdu. C'est ça qui les relie encore aujourd'hui.
Quand est-ce qu'on a un leader ou une leader?
Eh bien justement, mais ça, Yves, on ne peut pas...
Pour cette équipe, je suis désolé, enfin la question est posée.
Aucun nom ne peut être donné, parce que vous voyez bien que, autant c'est un cartel électoral...
On avait l'impression que François Ruffin serait une figure de consensus.
Il en a envie, parce que vous avez vu sa réaction quand Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il était prêt. Ruffin, tout de suite, immédiatement, a dit « Mais moi aussi, je suis prêt. Oui. Moi aussi, je suis prêt. » Bien sûr qu'il est prêt. Il essaye de prendre l'ascendant sur le mouvement, mais il y a François Hollande aussi qui a rejoint la danse, n'est-ce pas, cher Yves Calvi, François Hollande, l'ancien président, François Hollande, celui que Jean-Luc Mélenchon traitait de capitaine de pédalo. C'est pas du tout ce que je crois. Je ne crois pas, Roselyne, à un adoubement de François Ruffin par François Hollande. Voilà, c'est là le sujet.
Il va falloir trouver un leader pour la liste de l'ensemble de l'Union de la gauche.
C'est la pomme de la discorde, mais Yves, c'est la pomme de la discorde. C'est-à-dire que précisément, ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Quand on leur pose la question, vous avez vu, ils se cachent les yeux.
Pardon Anna, juste deux choses. Il y a deux façons de choisir le Premier ministre si c'est la gauche qui devait l'emporter au soir du 7 juillet.
Mais déjà, on voudrait un leader pour représenter la liste.
Je vais vous répondre. La première méthode, c'est de dire je choisis la figure du prou du groupe à gauche qui est arrivé en tête.
Voilà,
première méthode.
C'est ce qui a été dit par un
groupe. Et là, du coup, ça peut être Mélenchon, ça fait peur à tout le monde, mais ça peut être Mélenchon, ça peut être Ruffin, ça peut être je ne sais qui d'autre. Mais il y a une deuxième méthode, et je m'étonne que personne n'en parle.
Allez-y.
L'addition des autres formations de gauche sera bien plus importante à l'arrivée que la seule formation insoumise. Et donc, on peut aussi aller chercher un Premier ministre parmi ceux-là. D'où l'incapacité, l'impossibilité de vous répondre, de répondre aujourd'hui. Lequel? Un socialiste, un écologiste, un communiste? On ne sait pas répondre. C'est impossible de répondre.
Donc, pardonnez-moi, ils vont faire les 15 jours...
sans répondre à cette question,
et après la formation qui semble se dégager pour une raison, soit parce qu'elle est première, soit parce qu'elle est seconde, nous donne le Premier ministre qui gagne.
Si j'étais taquin pour vous répondre, et vous me connaissez, c'est pas mon genre, mais très sérieusement, de la même manière que la gauche ne peut pas répondre à cette question, ça vous a pas échappé que le Rassemblement National ne répond pas non plus à la question qui va être ministre des Affaires étrangères face à Poutine, qui va être ministre de la Défense, qui va être ministre de l'économie?
C'est pas la même question que Premier ministre.
Oui, c'est pas la même question. Pardon, ce que vous dites là est très intéressant, mais c'est pas la même question.
Mais pour les Français qui vont voter, et notamment pour cette moitié des Français qui a peur du Rassemblement National, ces questions-là sont fondamentales.
Je suis pas d'accord avec vous, Laurent. Effectivement, sur un plan intellectuel, c'est construit, mais quand on regarde la structuration des circonscriptions, c'est là où c'est quand même LFI qui a le plus de circonscriptions gagnables. Oui. On a refilé des trucs pourris au reste des candidats. Et vous allez voir que ce qui va sortir des urnes, ça va. Et c'est dans le LFI qui a le moins de doutes sur les candidats de la France Insoumise. Alors qu'il y en a beaucoup dans les autres formations politiques. Donc de toute façon, moi, mon avis, c'est plié. Ce sera LFI, le groupe majoritaire à l'intérieur du nouveau Front Populaire. Et c'est Mélenchon qui décidera.
Donc, pour le coup, je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir une certitude dans la matière.
J'aime bien jouer ma dernière.
Le rapport de force, comme le disait Laurent.
Quant au fait que les filles soient devant dans l'ensemble de la gauche.
Alors, ça, première chose, ça n'est pas acquis. Comme le disait Laurent Neumann, encore une fois, le rapport de force à l'intérieur de la gauche se rééquilibre. Oui. Donc, on verra au soir du 17 juillet qui est devant. Mais additionner le PS, Place Publique et les Écolos. Oui, effectivement, ça peut faire davantage.
Vous avez envie de partir en vacances, vous m'avez dit 17 juillet, c'est le 7.
Le 7 juillet, que la France insoumise.
C'est peut-être moi d'ailleurs.
Que la France insoumise, ça me paraît évident. Et il y a une deuxième dimension qui justifie en fait qu'on ne puisse pas choisir un Premier ministre du côté du Front Populaire aujourd'hui. Encore une fois, aujourd'hui dans les sondages, pardon, mais l'extrême droite reste devant.
Bien sûr.
C'est très incertain. Mais je n'ai pas dit qu'elle allait gagner.
L'extrême droite reste devant et l'extrême droite pourrait être crédité d'une majorité à minima relative. Mais en revanche, on observe que quand même, il y a une dynamique du côté de la gauche qui fait qu'elle pourrait être pas très loin derrière l'extrême droite. Oui, en revanche, pour passer devant l'extrême droite, il lui faut précisément s'allier avec le troisième.
Oui, mais c'est ambiguïté. Mais oui, mais le fait de ne pas choisir un leader, c'est une ambiguïté et je dirais même une hypocrisie.
Aucun non, sens. Si je peux terminer ce que j'allais dire. Précisément, dès lors que vous devez faire une alliance,
vous aviez terminé. Excusez-moi.
Dès lors que vous devez faire par ailleurs une alliance avec la majorité présidentielle, une partie de la majorité présidentielle devenue minorité présidentielle, précisément le casting n'est pas le même non plus.
Oui, mais sauf que du coup les électeurs ne savent pas pour quelle politique voter.
Mais si vous voulez, si une coalition devra se nouer, laissez-moi
terminer à mon tour s'il vous plaît. Mais si Jean-Luc Mélenchon s'installe à Matignon, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne fera absolument pas la même politique qu'un François Hollande qui
on l'a tous compris, pas à Matignon, pense aussi, chacun le sait.
Et François Ruffin, première prise,
chacun le sait. Est-ce qu'on peut laisser Charles Sapin prendre la parole? Merci.
Prise de parole ce samedi finalement de François Ruffin à Amiens qui disait Jean-Luc Mélenchon, il est super, surtout quand il se tait. Jean-Luc Mélenchon,
tout le monde pense ça.
Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le désigne comme candidat à Matignon, et François Hollande, il ne revient pas pour être simple député de Corrèze. On voit bien ce qu'il a en tête. C'est par une une pirouette de l'histoire, devenir Premier ministre du président qui a été son successeur pour prendre sa revanche sur cette histoire de 2017 qu'il n'a jamais dit.
Vous êtes sérieux?
C'est pas impossible.
Mais attendez,
c'est pas impossible.
Il n'a jamais digéré cette histoire de 2017.
Le complot et la connerie, il faut toujours choisir la connerie.
Michel Rocard avait parfaitement raison.
Non mais François Hollande est le Monte Cristo de l'histoire. C'est-à-dire que François Hollande, ça fait 7 ans qu'il ronge son frein. D'accord, il était fou furieux. Il a été trahi par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'était son petit chéri, celui qu'il avait. Non mais il lui a fait confiance jusqu'au bout du bout. Manuel Valls le mettait en garde, souvenez-vous. Et François Hollande, jusqu'au bout, il lui a donné sa confiance jusqu'à ce message qui date du 15 novembre 2016. Où Emmanuel Macron lui dit « Demain, j'annonce ma candidature ». Ça s'est joué comme ça entre ces deux hommes. François Hollande a envie de se venger. Et là, l'opportunité lui est fournie par les circonstances. Mais si, mais c'est François Hollande lui-même qui le raconte. Laurent, c'est Hollande lui-même qui dit qu'il veut se venger.
Non, je dis fiction. Ça, je peux vous dire. Hollande à Matignon, voilà, parce que de...
Sur proposition du Premier ministre, monsieur François Hollande. Du Premier ministre, monsieur François Hollande, le président de la République nomme. Alors, on ne s'amuse pas à faire le gouvernement, mais est-ce que cette hypothèse est quelque chose d'envisageable, François Hollande à Matignon? Vous nous dites invraisemblable.
Mais de la même manière, je vais répondre.
Moi, je ne crois pas dans la vie
politique française. Moi, j'écoute beaucoup ce que dit Charles Sapin parce que ses arguments sont absolument. Tout ce qu'il dit est extrêmement structuré. D'abord, la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
Il est bien structuré, ce petit sapin.
Sérieusement, qui en parle? À part Jean-Luc Mélenchon lui-même et Gabriel Attal qui a essayé.
Je crois qu'on vient de le faire.
Attendez, mais qui parle sans arrêt de Jean-Luc Mélenchon? Ceux qui veulent absolument faire perdre la coalition de gauche, Jean-Luc Mélenchon lui-même et accessoirement Matignon, Gabriel Attal et l'actuelle majorité en proposant un débat télévisé pour mettre Jean-Luc Mélenchon comme un épouvantail sur le devant de la scène.
François Hollande, je vous signale.
Et la deuxième chose, vous pouvez répondre François Hollande, le Monte Cristo, comme dit Anna Cabana, non. Je rappelle la Constitution. Le président de la République choisit le Premier ministre. Oui. Vous m'avez vu là, vous pensez sérieusement qu'Emmanuel Macron va appeler François Hollande à Matignon?
Avec Emmanuel Macron, tout est possible dans la provocation.
En l'occurrence, ça n'est pas Emmanuel Macron qui décidera seul, précisément. En fait, c'est quand même le Front républicain qui va désigner son leader. Jean-Luc Mélenchon et François Hollande ont tous les deux un point commun. Jean-Luc Mélenchon est le plus répulsif qui soit pour la gauche modérée.
Oui.
François Hollande est le plus répulsif qui soit pour la gauche radicale. Donc précisément, les deux qui sont à ce stade disqualifiés, il me semble qu'il faut atterrir, ce sont et Jean-Luc Mélenchon et François Hollande.
Ni Mélenchon. Non, je sais pas.
Ce que vous venez de dire est tout à fait exact. Et vous venez de donner, en fait, si jamais ce nouveau Front populaire gagne les élections et soit amené à décider qui s'installe à Matignon, en fait, ça sera l'heure de la mort de ce nouveau Front populaire, puisque une entente sera impossible.
Je ne comprends pas du tout votre raisonnement. Il y a beaucoup d'autres acteurs au sein de ce Front populaire qui peuvent prétendre à l'exercice des plus hautes responsabilités à Matignon.
Ça ne sera pas Philippe Poutou, dont la formation politique est en ce moment poursuivie pour apologie au terrorisme.
PS.
Non, mais soyons précis.
Non, mais le front populaire en tant que tel, ce nouveau front populaire, ne résistera pas à la désignation d'un leader et d'un tenant du poste de Premier ministre.
Il y a des gens qui pourraient faire un semblant d'union. On a cité le nom de François Ruffin.
Vous pourriez citer Clémentine Autain.
Clémentine Autain.
Rosine, vous pourriez citer quelqu'un comme Valérie Rabault.
Oui.
Elle est au Parti Socialiste.
Boris Vallaud.
Personne ne lui conteste le label de gauche.
Mais c'est une économiste. Elle a dit grand mal du programme.
C'est absolument.
C'est une économiste. Raison de plus.
Je connais Valérie Rabault.
Ça la qualifie d'autant plus.
Vous venez de la qualifier.
Vraiment, elle n'endossera jamais ce truc.
Je participe moi-même au name dropping. On ne parle que de Mélenchon, Ruffin, Autain ou Olivier Faure, chef du Parti Socialiste, ou Poutou. Pourquoi pas Poutou? Mais ce n'est pas le sujet, sérieusement. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres qui ont parfait. Vous saviez, vous, en 2017, que Emmanuel Macron allait appeler Édouard Philippe? Jamais son nom n'a été cité une seule fois dans
Voyons, vous avez mis quelques noms. Laurent Berger, Raphaël Glucksmann, Fabien Roussel, François Ruffin, Boris Vallaud, Carole Delga, Clémentine Autain. Ils sont venus, ils sont tous là.
Et je vais vous dire, il y en a d'autres.
Conclusion, il y en a presque trop.
Donc d'abord, on va aller voter, et puis ensuite, en fonction des élections, on verra qui a le meilleur profil en fonction du résultat de 7 juillet. Et quelque chose me dit qu'on ne le sait pas.
Mais à la vérité, il serait bien avisé les uns ou les autres de venir sur un plateau pour dire Jean-Luc Mélenchon ne sera qu'un des leaders, n'est-ce pas, de ce nouveau Front populaire. Vienne sur un plateau et dise on vous assure d'ores et déjà que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas nommé Premier ministre, quoi qu'il arrive, eh bien, je peux vous dire, ça enlèverait beaucoup de la force de l'épouvantail que
on est en train de vivre
aucun,
ce soir.
Laurent, aucun ne se hasarde ni ne s'aventure à venir dire ça sur un plateau.
Non, mais on est en train de vivre ce soir et de parler d'un sujet qui est quand même très étonnant. Depuis la dissolution, tout le monde pense sérieusement, les meilleurs observateurs, que le Rassemblement national a déjà gagné. Et de quoi parle-t-on là? De qui pourrait aller au nom de la gauche à Matignon? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, peut-être,
parce qu'une
qui
dynamique,
est en train de changer.
Une dynamique est née.
Je regarde le sondage ce soir.
Et qu'un leader veut dire ligne.
Il n'y a plus que 5 points d'écart entre le Rassemblement national et la coalition de gauche. 33-28. Pardon, il y a 4 jours, on n'aurait pas été là en train de débattre sur qui pour
mais
la
Laurent,
gauche pourrait aller.
Si cette ambiguïté était dissipée, ce serait une possibilité, si vous voulez, pour rassurer ou inquiéter davantage les électeurs.
On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens.
On est bien d'accord. Donc cette ambiguïté stratégique demeurera jusqu'au soir du deuxième tour.
Oui, non, mais c'est vrai. Et si la preuve qu'ils entretiennent cette ambiguïté, c'est parce qu'ils ne veulent pas choisir, parce que choisir ferait craquer ce nouveau Front populaire. Et c'est problématique. Je rappelle simplement qu'à Matignon, il n'y a qu'un siège.
Bien sûr.
Ils ne seront pas 5 à faire des raouts pour
toute
chaque
la
décision.
Nuit, toute la nuit.
Toute la nuit, exactement.
Clair,
arriver au bout de débat de 10 heures, dire finalement, on a pris telle décision.
Donc il faudrait qu'il
y ait quand même une majorité de Français qui veut ni l'un ni l'autre.
Et on revient à la carte et au lapin.
Je vous donne la parole tout de suite.
Vous les envoyez, ceux-là, au passage.
Je vous redonne la parole tout de suite, mais je rappelle notre sondage du jour. 33% Rassemblement National, 28% Nouveau Front Populaire, 18% Ensemble et 5% Les Républicains.
C'est un sondage IFOP. J'y ajoute un élément. La galerie de portraits que vous projetiez à l'instant avec 9 candidats potentiels à Matignon, on serait bien en peine de faire exactement le même exercice pour l'extrême droite. C'est-à-dire que pour l'extrême droite, on a compris que Marine Le Pen avait d'ores et déjà désigné Jordan Bardella comme Premier ministre. On ne voit pas très bien quel plan B ou quel plan C on pourrait
trouver. Mais ils n'ont pas besoin d'en chercher, puisque précisément cette ambiguïté n'existe pas.
Ce que je voulais dire, c'est que précisément, en fait, il y a un casting constitué de suffisamment de talents à gauche pour imaginer que plusieurs options sont possibles, là où précisément à l'extrême droite, ça semble plus compliqué. Et même Jordan Bardella, prédésigné Premier ministre, je pense que si désormais, en fait, chaque auditeur ou chaque téléspectateur l'écoute comme le futur Premier ministre de la France, ça change un peu quand même le regard qu'on porte sur lui.
Le temps file très vite. Il y a quand même un thème sur lequel l'ensemble des candidats du Front populaire semblent absolument d'accord, c'est la remise en cause de la réforme des retraites, et même son abrogation.
Oui, alors d'abord,
immédiate.
Il y a une règle en droit français, c'est qu'une loi ne peut être abrogée qu'avec une autre loi.
Oui.
Donc il faudrait que la nouvelle majorité soit en capacité à l'Assemblée d'avoir une majorité suffisante donc pour faire voter une autre loi. Donc Il y a un autre système possible, c'est qu'ils peuvent décider, dès qu'ils arrivent aux fonctions, de supprimer les décrets d'application de l'actuelle loi qui a été votée. Et là, du coup, on serait dans une sorte de no man's land où, au pire, on reviendrait à celle d'avant. Mais ça, ça peut aller très, très vite. Et je note que le Rassemblement national fait...
À l'automne.
Alors, pas à l'automne, voilà. Après avoir fait un audit des comptes publics pour savoir si cette promesse...
Ils sont clairement en train de reculer gentiment. Oui, j'ai vu ça dans le regard de Jordan Bardella l'autre jour quand il était en face de moi et qu'il répondait à cette question.
Mais exactement. Mais c'est toute la faiblesse du Rassemblement national, finalement. Il y a un politologue italien qui s'appelle Giovanni Orsina, qui a une expression fabuleuse pour parler de ça. Il dit c'est la romanisation des barbares. C'est-à-dire que les forces nationalistes, plus elles s'approchent du pouvoir et a fortiori quand elles s'y installent, elles abandonnent les pans les plus radicaux de leur programme. Le problème, c'est que du coup, les électeurs du Rassemblement national vont voter pour une formation sans savoir exactement ce qu'ils vont appliquer. Parce que quand on regarde, depuis 2018, c'est pas les années 80, depuis Marine Le Pen, elle a abandonné.
Ils s'en foutent dans leur tête, ils disent on a tout essayé. Pardonnez-moi d'être un peu sommaire.
Vous avez raison.
Bah oui,
mais... Enfin, c'est problématique de voter pour une formation dont on ne sait pas quel sera
son
programme.
Nous sommes bien d'accord, oui.
Elle a abandonné la sortie de l'Union européenne, l'abandon de l'euro, l'interdiction de la double nationalité, la réforme, les retraites à 60 ans. Et même là, Jordan Bardella vient de dire « Oui, bon, on va peut-être revenir sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, mais pas tout de suite. » Oui. C'est quand même problématique.
Non, mais là, c'est évidemment l'énorme caillou dans la chaussure parce que... à la fois du Rassemblement national, mais aussi du nouveau Front populaire, parce que l'abandon de la réforme des retraites, bon, c'est 17 milliards sur la réforme qu'on peut baptiser Macron, et puis c'est quand même 69 milliards, si, parce qu'elle est quand même en perspective. Oui. Hein, le retour à la retraite à 60 ans. Et puis évidemment, on garde les mesures sucrées qui étaient dans la réforme Macron. Celles-là, on va pas les abandonner, on va garder... On va les garder. Donc là, il y a un problème de financement considérable et qui s'est considérablement augmenté parce que
à vos yeux, c'est une catastrophe si on ne la fait pas, cette réforme?
C'est une véritable catastrophe. Quand on voit la chute de la natalité, quand on voit la chute de la productivité...
Dont on fera porter d'une façon ou d'une autre le poids à nos enfants...
Que la matrice technique de la réforme Macron, c'est un chômage à 5%, c'est une productivité située entre 0,7 et 1,4, mais plutôt à 1, alors qu'elle est en train de chuter à 0,4, et que la natalité est en train de s'effondrer, et qu'aucune politique nataliste n'a fait marcher les ovaires, c'est une connerie.
Vous l'avez dit directement. Oui,
oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Bon, écoutez, la messe est dite. C'est un désordre colossal qui est instauré dans l'économie française.
Mathieu Soucker, est-ce que ça...
Ce qu'on pourrait reprocher à Macron, c'est d'avoir fait une réforme à la mie de pain.
Qu'est-ce que ça veut dire, etc. On n'a pas eu de vraie réforme.
Non, il n'y a pas eu de vraie réforme.
Oui.
Évidemment. Elle est totalement insuffisante.
La fameuse réforme par points qu'on n'a jamais fait.
C'est ça.
Oui.
Et dont lui-même rêvait avant de l'enterrer.
Ben oui, il en parlait très bien.
Il en parlait très bien.
Moi, j'ai interviewé dans Paris Circonstance, c'était stupéfiant. Mathieu Soucker, est-ce que ça peut se jouer là-dessus, la campagne, sur ce compte que les Français auront encore à régler avec leur président sur la réforme des retraites?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils y étaient massivement opposés. Peut-être ont-ils tort, madame la ministre, mais en tout état de cause, l'intégralité du monde du travail y était opposée.
C'est sûr.
Les seules catégories qui y étaient favorables, c'était les retraités. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est resté précisément comme quelque chose de très dur entre l'opinion et Emmanuel Macron, a fortiori avec l'usage répété du 49-3. Ouais. Voilà. Donc, il y avait une crise. Il y avait tout à la fois une crise sociale autour de la réforme des retraites et il y a eu une crise démocratique.
Donc il y a une plaie qui demeure dans le lien au président de la République sur cette question précise.
Incontestablement, il est même très clair qu'il a perdu l'essentiel de ses soutiens dans le monde du travail avec la réforme des retraites. Il a fini aux européennes avec 15%. 15% après 7 années d'exercice du pouvoir, c'est pas catastrophique en réalité. Le Parti Socialiste en 2014 avait fait bien pire après seulement 2 années de François Hollande à l'Élysée. Donc le problème, c'est pas les 15%, c'est la sociologie derrière ces 15%. Et précisément, c'est pas une France en miniature, c'est une France en décalage total avec la réalité sociale du pays. Ce ne sont plus que les retraités et les gens très aisés. Il a perdu le monde du travail, il a perdu le centre-gauche, il a même perdu une partie de l'électorat féminin avec l'affaire Depardieu. Donc il y a plus grand monde derrière Emmanuel Macron, c'est tout le sujet.
Et le monde ouvrier est massivement Rassemblement National.
Absolument.
Bon, une toute dernière question, qui est quand même centrale en pareille période. Oser aborder la question des retraites aujourd'hui, est-ce que c'est, est-ce que c'est devenu un tabou absolu dans ce pays ?
Ah non, pas du tout. Il y a même peut-être des gens qui vont aller voter en fonction de ce que leur disent les candidats respectifs sur la réforme des retraites.
Oh, d'accord.
Tout simplement parce qu'on ne met pas impunément 2 millions de personnes dans la rue.
Mais les agences de notation, elles nous guettent.
Ça, ce sera ce qui va se passer après, évidemment.
Parce que je serai le président Macron.
Mais les agences de notation se sont déjà vengées il y a quelques semaines.
Bah, oui, mais alors, pas pour la note a raison, été dégradée. C'est non, parce qu'elles ont considéré que la réforme des retraites n'était pas suffisante, n'allait pas assez loin. Et donc, elles se sont effectivement vengées, ce qui nous dit que ça pourrait être pire au cas où cette réforme serait abolie. Mais encore une fois, on ne dirige pas un pays contre l'avis d'un peuple tout entier.
Merci à vous tous.